podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur.
Hey Julien.
Hey Nilton.
Es-tu vraiment certain de vouloir faire ça, le CCPP?
Ouais, ben écoute, on dirait que j'ai comme pas le choix, mais non, je me considère comme le nouveau Anthony Jackson Hamel du CCPP.
Oui, oui.
Super sub par excellence. Je suis jamais sur l'alignement partant.
Mm-hmm.
Je suis un super sub, toujours là pour servir l'équipe.
Mais nous, on va au mérite.
Ouais, exact.
Puis si tu performes, tu pourrais remplacer Sofiane, voire moi, hein?
Ouais,
mais tu sais que ça vient avec y a des conséquences. Là. C'est un show qui fait jaser. Là. Le tiède n'existe pas vraiment au CCPP. C'est assez tranché au plaisir de certains.
Mais écoute, c'est comme le hashtag MFC sur Twitter. Hein. On s'ennuie jamais, qu'on pourrait dire. Là, cette semaine, ça a été un peu chaud avec vous. Mais on peut quand même là, rassurer tout le monde. C'est pas pour ça que Sofiane n'est pas là aujourd'hui.
Non.
C'est à cause de la petite Safira encore qui prend toute son attention.
La légende dit qu'elle s'est endormie pendant le match. Et que tu ne t'es pas encore réveillé. Non, c'est pas vrai. Non,
moi, match, fait que c'était difficile de s'endormir, mais je peux comprendre certains qui étaient devant la télé que c'était peut-être pas le match le plus excitant, on va se le dire.
On s'en reparlera tantôt. Sinon, tiens, ça fait quoi? Ça doit faire un mois que la dernière fois que t'es venu remplacer Sofiane, ouais? On a notre petit classique, on parle de notre semaine, là, puis plus qu'on est deux papas, puis quand on a du temps libre, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on regarde la télé. Mais toi, en tant que milléniaux, as-tu du temps libre pour regarder quelque chose de spécial sur Netflix ou ailleurs, ou n'importe quel autre genre de découverte que tu aimerais partager?
Ouais, ben écoute, moi actuellement, là, c'est le moment de l'année où je jongle entre la fin de session puis le début du travail à temps plein. Je suis pas mal.
Ah oui.
Mais je sais même pas, c'est peut-être sur le CCPP que j'en avais entendu parler, mais j'ai découvert un petit bijou sur Netflix, là, un documentaire qui s'appelle Beyond the Curve. C'est sur les fameuses personnes qui croient que la Terre est plate.
Ah oui, ça!
De plus en plus de place, de plus en plus d'espace médiatique, qui sont justement beaucoup issus de des podcasts, en fait, de cette communauté-là.
C'est inquiétant, hein, quand tu vois ça.
Inquiétant, tu dis, c'est surtout la capacité qu'ont ces gens-là à se convaincre qu'ils ont raison, puis que toutes les preuves scientifiques ne valent rien. Puis cette espèce de « je le pense, donc c'est vrai », il y a quelque chose de hyper fascinant. Puis c'est un petit documentaire là, d'une heure, c'est hyper intéressant, ouais. Je le recommande.
Oui, je l'ai vu, il y a de ça, c'est ça, à peu près un mois ou deux. Là. Puis ça m'est arrivé quelques fois où j'ai fait pause, comme dans The Office. Des fois, je faisais pause parce que je riais. Là encore, je riais, mais c'était pas censé être drôle. Ouais, Flat Earthers, là, une espèce de regroupement. J'allais dire underground, mais de moins en moins, là, sur les médias sociaux et sur toutes ces plateformes, que ce soit YouTube. C'est des vedettes YouTube, influenceurs, mais tant que ces gens-là essaient juste de payer leur taxi avec des cartes cadeaux, c'est pas si grave. Mais là, quand ils sont en train de calculer pour prouver que la Terre est plate, mon Dieu, 500 ans d'évolution, pouf, flushé dans la toilette, c'est triste. Hein?
Pour en arriver là, il y a quelque chose de triste puis de surréel. Là. Surtout que ces gens-là arrivent à se regrouper là, justement avec les réseaux sociaux puis tout, à se retrouver aux quatre coins de la planète, puis ça leur donne une espèce de force de groupe, là, l'espèce de force du nombre. Ils ont l'impression que parce qu'ils sont pleins à croire ça, ben c'est la réalité. Fait que c'est un peu, c'est à la fois fascinant puis à la fois un peu épeurant, je dirais.
Ouais. Moi, tu vois, cette semaine, j'ai commencé à écouter un truc sur Netflix. Je pense que c'est Wild Wild S ou Country. C'est une histoire d'un gourou hindou qui s'est installé aux États-Unis dans les années 80. Oui, c'est ça. Là, juste, ouais, dans une petite ville où il n'y avait absolument rien, on acheté un ranch parce qu'il fallait qu'ils sortent de l'Inde avec tous les fidèles. Quelque chose d'assez spécial, là. C'est hallucinant de voir comment des gens... Puis il est entouré de gens intelligents d'à peu près partout dans le monde, là. Ils viennent en Inde pour suivre sa nouvelle philosophie. Du monde brillant, là, qui suit un gars qui, bon, tu sais, à la base, ça a l'air un peu inoffensif, quasiment un peu séducteur, mais après, là, ça vire un peu tout croche. On voit, en tout cas, dans les previews, il semble vouloir même influencer les élections dans le coin, puis il essaye de droguer ou de pratiquement tuer quelqu'un. En tout cas, je suis pas encore rendu là. C'est fou comment que certaines personnes ont besoin, c'est un peu comme les Flat Earthers ou n'importe quelle autre théorie d'un anti-vaccin. Les gens ont besoin de croire en quelque chose. C'est comme si la religion, le fait que la religion a pris de moins en moins de place dans nos sociétés, ça crée un vide que certaines personnes ont quand même besoin de remplir.
Ouais, puis je pense souvent ça part d'une bonne volonté, là, c'est-à-dire cette volonté-là de pas être comme tout le monde, puis d'être différent, puis de pas suivre l'espèce de métro-boulot-dodo, là, qu'on pourrait dire. Mais ça vire souvent, c'est ça, limite religieux, ou tu sais, c'est pas pour rien que les religions ont été si...
Ça marche bien, cette idée-là, hein? Non, ça donne rien. Ça marche vraiment bien, les religions. C'est un bon concept.
Écouter un peu ça, Wild, puis ça vaut la peine de l'écouter quand même, c'est quelque chose.
Je pense qu'on va aller passer au match. Là, on va parler d'un autre sujet un peu plus, j'allais dire un peu plus léger, mais non. Parce que là aussi, des fois, ça brasse un peu fort. Donc, suite à cette victoire de l'Impact, on va passer à l'épisode, l'épisode 10? L'épisode 10, je crois. Ouais, de CCPP. Dans 5-3, oui, ça va bien. Hein? 5-4-3-2-1.
MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial, on en parle tout le temps. Ben des fois, on parle de cuisine, mais pas longtemps. Cannes Football Club, c'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club, la poutine du soccer.
Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 10 de Couscous Péri-Péri, mais sans couscous, juste du péri-péri à la sauce brune avec Julien Tardif. Salut Julien.
Salut Milton, très heureux de faire partie de ce CCPP.
On avait besoin de positivisme. Il y a pas juste les matchs qui rendent positifs, il faut aussi une bonne dose de positivisme. Et Julien, quand on parle positivisme, t'es là pour nous remettre sur le droit chemin.
Ouais, je sais pas encore comment je le prends, toutes ces...
Non, c'est bien, c'est une qualité.
Ouais, écoute, je vais le prendre, là, puis ça va être mon mantra, là, à partir de maintenant, dans le monde de l'Impact, je suis monsieur positif.
C'est ça, comme disait Michel Therrien, voici notre allusion au hockey de l'épisode, comme disait Michel Therrien, chacun sa chaise, ouais. Sofiane et moi-même, c'est clairement défini où est notre chaise. Ça a peut-être pas été de voulu de notre part, mais bon, c'est comme toi. C'est peut-être pas voulu de ta part, mais ta chaise, c'est Monsieur Positivisme du Cannes Football Club, il en faut un. Avant de commencer, on va parler un peu de nos commanditaires. On va remercier tout d'abord les tout premiers, la Forge du Mal, qui sont là depuis toujours. Allez voir leur site web si vous voulez voir la distribution de leur bière. Sinon, visitez leur magasin à Trois-Rivières, la Force du Mal. Aussi, remercier Spreaker qui nous donne un grand coup de main pour le host de toutes les émissions du Cannes Football Club en partant, oui, l'original, le Cannes Football Club podcast à tous les mercredis. Il y a aussi, celui ça a été une renaissance des cendres dernièrement, Blaugrana Podcast. Mais oui. Étonnamment coïncide avec le trophée. les renards du soccer. Il y a aussi le podcast qui devrait être de plus en plus populaire, celui de la CPL, yeah, qui a vu finalement le jour en fin de semaine. Bien sûr, il y en a plein d'autres sur la ligne. Il m'en manque probablement quelques-uns. Les Trois Lions, ainsi de suite. Et bien sûr, on met là-dessus aussi les différentes chroniques qu'on peut faire, soit 91.9 ou Radio Média Plus. Justement, il y a ta chronique à tous les lundis avec Jean.
Exact. Toujours un plaisir là, de retrouver Jean et de jaser un peu de soccer. J'ai été avec lui vendredi dernier, puis je le retrouve demain sur les ondes vers midi et demi.
Exact. Et moi, je suis là régulièrement le mercredi avec Jean Corriveau, qu'on salue et qu'on remercie. Le CCPP est dans la grille horaire de Radio Média Plus. La semaine, je me souviens plus, je crois que c'est le mardi qu'il y a des rediffusions aussi. Donc, si vous nous entendez via Radio Média Plus, on vous salue et on vous invite aussi à venir écouter nos différents podcasts ou nous suivre sur nos différentes plateformes, que ce soit sur Twitter, Facebook ou Instagram. Le match! Une victoire, un triomphe, comme on dit à l'italienne, un triomphe de 1-0 à Montréal face au Fire de Chicago, que je déteste ce nom. c'est les vieux logos, les vieux noms de MLS, hein, tu sais, les Wizards qui ont débarqué, il reste Fire, il reste le Revolution. Éventuellement, ils vont peut-être mettre ça à jour. Alors, victoire de 1-0 grâce au but du sauveur. Ouais, le sauveur qu'on attendait tant, l'anti-TFC Omar Brownie, qui est rentré sur la blessure de Baya. Donc, l'alignement de l'Impact de Montréal, le classique 4-3-3 avec Bush dans les buts, au centre comme défenseur, Raitala et Diallo, qui est de plus en plus le duo préféré de Rémi Garde. À droite, Sagna Levitz à gauche. Devant sa défensive, Samuel Piette, qu'on voit quoi partout. Il y a François Legault et ensuite il y a Samuel Piette dans les médias. C'est à peu près égal. On demandera à Influence Communication. Ensuite, il y avait Taider à gauche qui était revenu de sa petite blessure de semaine, Azira à sa droite et le trio d'attaquants Orgé Okwongo, j'allais dire le Ongwongwo de sa fiche. Je ne sais même pas comment. Un mélange de Okwongo et d'Oyongo. Donc, Orgi qui était à la gauche. À droite, Clément Baya qui avait un autre départ. Et comme avant-centre, insérer le qualificatif que vous voulez, Maximiliano Urruti. En face, un 4-2-3-1 avec Usted dans les buts, Kapelov et Schweinsteiger en défense centrale, Campos à droite, Corrales à gauche, une paire de McCarthy et Mihalovic devant sa défense, suivi de Nico Gaitan, ancien de Benfica, il était méconnaissable aujourd'hui. À gauche, Kaitai, CJ Saipong à droite, et Nikolic qui a manqué un but comme avant-centre. Donc, Julien, à chaud comme ça, là, parce qu'on est quand même à moins de 6 heures, on vient pratiquement de rentrer à la maison après le match de dimanche. À chaud comme ça, qu'est-ce que tu penses du match?
Écoute, c'est toujours un peu différent quand on l'a vécu en live plutôt que l'avoir écouté à la télé. Donc, c'est sûr que oui, c'est pas une performance étincelante de l'Impact. Ça me fait beaucoup penser, en fait, au premier match à domicile, la victoire de 1-0 contre le Crew, où il y a pas beaucoup d'occasions d'un côté comme de l'autre, où c'est un match un peu terne, je dirais. Finalement, l'Impact qui réussit à mettre un but puis après à fermer les livres. C'est un peu comme ça que je le vois. Et c'est pas idéal au niveau spectacle, mais après, en termes de points, c'est parfait.
Ouais, mais je pense qu'il va falloir s'habituer, hein. Puis si on veut pas se répéter de semaine en semaine, on va falloir s'y faire que le jeu, le jeu excitant, ça sera pas la marque de commerce de Rémi Garde en 2019. C'est le pragmatisme qu'on avait dit trop souvent dit en 2018. Là, c'est un pragmatisme consommé et réussi. Dans le fond, on peut pas se plaindre. On se retrouve dans le top 3. Là, ça dépend des autres résultats de la journée, mais il y a aussi des matchs d'avance sur TFC, tout ça, mais peu importe, on se retrouve très bien classé. Dans l'Est, on l'a répété avec le calendrier compliqué, les matchs à l'extérieur. Là, le prochain match en fin de semaine contre New York City, c'est à Montréal, mais après ça, encore deux autres matchs à l'extérieur. Tous ces points-là, et c'était le septième match, si je me trompe pas, sans Piatti.
Ouais,
exactement. C'est sûr qu'on peut pas, espérer gagner un match si on accorde 2 buts. Donc, tout ce qu'on fait, c'est on enligne les performances défensives en espérant les coups de magie en face.
Non, mais tu sais, on va se le dire aussi, il me semble que les autres saisons, même l'année dernière, il y a plusieurs de ces matchs-là que l'Impact arrive soit à aller gagner 1-0 ou à annuler 0-0, que souvent il aurait perdu sur une erreur, sur un penalty, il y a quelque chose cette saison, on dirait que, tu sais, des fois, la chance est un peu de ton bord. Mais j'ai l'impression que là, le ballon roule pour l'Impact, on pourrait dire, là. Ça tombe de leur côté, puis tant mieux, là, profitons-en. Puis écoute, il va peut-être avoir un retour du balancier à un certain moment, mais si ce retour-là arrive à un moment où t'as un Nacho Piatti qui peut aller te mettre 2 buts, ben écoute, tant mieux. En attendant d'être capable de survivre, même plus que survivre sans lui, c'est inespéré, là, à mon avis. Puis juste ça reste satisfaisant. je fais mon positif, je le sais, mais quand même.
Non, mais tu sais, Rémi Garde en a parlé à la fin du match, là. Il parlait un peu de l'état d'esprit. Tu sais, c'est un mot assez vague, puis on peut mettre ça, on peut ajouter plein de choses dans cette catégorie-là, qui est l'état d'esprit, pour expliquer les fins de match qui tombent en notre faveur. Tu sais, on peut aussi expliquer la profondeur, puis la profondeur, c'est le banc. L'année passée, à pareille date, je pense que le sujet de conversation, c'était pas Mancuso, malgré qu'il faisait absolument rien à l'attaque. C'était le nombre de changements. On calculait le nombre de changements. On regardait le temps que chacun rentrait. C'était le sujet de conversation. Rémi Garde était très, très énervé quand on posait la question. Là, Rémi Garde les utilise, ces options, hein. Puis tellement que s'il pouvait, il utiliserait un quatrième. On en parlera un peu plus tard. Il y avait l'option Jackson. Si, là, suite au but, ben, il y avait une autre option derrière. Pour tomber à 5 défenseurs. L'année passée, Raitala jouait en défense centrale par défaut. Exactement. On n'avait pas d'option comme ça pour ajouter un autre défenseur. Heureusement, nos milieux de terrain, le trio Piet, Azira, Taider, ben, il a réussi à faire tout le match. Là, il y avait un peu plus de problèmes avec la blessure de Chaumy ou de Chouanière. Il y avait un peu moins d'options pour jouer au milieu. Mais oui, il y a une notion de chance parce que Montréal n'a pas eu une tonne de chances offensives. Il y a eu l'arrêt miraculeux, le double arrêt miraculeux de Bush suivi de l'interception du tir bloqué de Samuel Piet dès le début du match, qui aurait pu changer complètement l'allure du match. Le courir après un score, c'est totalement différent, beaucoup plus stressant qu'être là à un 0-0. Au pire, aller le 0-0, oui, c'est pas super bon résultat à domicile, mais on a tellement d'accumulés de points à l'extérieur que le 0-0 aurait pu être probablement suffisant à l'Impact de Montréal face à Chicago.
Ouais, vraiment. Mais écoute, il semble avoir un petit quelque chose, là. On parlait d'état d'esprit tantôt, mais quand même, cette double chance-là du Fire est venue au tout début du match. Il semble parfois avoir un petit manque de concentration. Là, on dirait que l'équipe a de la misère à vraiment se mettre dans ses jambes. Une fois, par contre, que l'espèce d'organisation défensive s'installe bien, il y a pas grand chose qui passe, là. On n'a pas eu beaucoup de, tu parlais de Nico Gaétan qui t'a déçu. On dit beaucoup de bien de Mihailovic. Nicolet, ouais. Bon, avait eu une grosse saison il y a 2 ans, un peu plus tranquille l'an dernier. C'est quand même des gros joueurs offensifs. On les a pas vus beaucoup, là, aujourd'hui. Puis, je pense que ça passe beaucoup par Zakaria Diallo. Oui, on parle beaucoup de lui, là. On a dit un peu en riant après les deux premiers matchs que c'était peut-être un des meilleurs défenseurs de la MLS. Mais je pense qu'il va rentrer dans la conversation plutôt que tard, là. Il amène vraiment un calme à toute la ligne. Ça va au-delà de ses interventions aériennes ou balle au pied ou quand il monte avec le ballon. Je sens qu'il contrôle bien la ligne. Il y a une belle entente, que ce soit avec Raitala, que ce soit avec Cabrera. Il amène vraiment là, une sérénité à la défensive de l'Impact qui fait vraiment du bien à voir. Oui, ça arrange pas le fait que l'organisation offensive est plus ou moins là, mais au niveau défensif, je me souviens pas d'avoir vu l'Impact aussi dominant à ce niveau-là. On pense à ça, Nilton, là, l'Impact a donné 14 buts en 10 matchs, mais 10 de ces 14 buts-là sont venus dans 2 matchs différents.
Donc, c'est fou. Oh, ouais, tout à fait.
Donc, quand même, il y a vraiment quelque chose de défensivement. L'équipe est sereine. Puis je sais que ça fait pas le plus beau spectacle. C'est pas nécessairement ce qui va vendre des billets ou ce qui va donner le sourire à un gars comme Marc Beltaite sur Twitter. Mais ça gagne des matchs. Puis à la fin, c'est ça que l'Impact a besoin. C'est ça que l'équipe a besoin pour avoir une certaine confiance, pour aller de l'avant. Puis ça, en ce début de saison, je pense que c'est vraiment le highlight, là, cette espèce de sérénité défensive menée par Zakaria Diallo.
Je vais faire une petite parenthèse concernant Marc Beltaite. Oui, il y a une réputation. C'est un personnage Twitter de IMFC. Oui, il y a une réputation que les gens donnent un peu sévère. Mm-hmm. Mais rarement, on fait autant de critiques sur les personnes qui sont aveuglément positives. Mm-hmm. Marc voit ou expose des choses que nous, des fois, on peut penser, mais on n'ose pas écrire parce que le backlash est assez sévère quand on écrit quelque chose. Si vous êtes de ceux qui vous amusez un peu à le ramasser, réfléchissez juste un peu à son propos que vous pouvez considérer exagéré, mais le fond est rarement totalement off. T'sais, il pèse un bouton fort, mais des fois, c'est rare qu'il pèse sur le mauvais bouton.
Non, puis il y a toujours un fond. Mais c'est drôle tantôt parce qu'il a écrit quelque chose, puis je me suis retrouvé sur son profil, puis sa description, c'est « Rien dans la vie n'est positif, je suis... cet autre côté de la médaille. » Fait que tu sais, quand même quelque chose de nécessaire là-dedans, tu sais, c'est-à-dire, c'est vraiment ça.
Ça, c'est drôle.
Il part, puis il va sur ce qui n'est pas positif. Puis c'est comme...
Mais c'est une belle hypothèse de base, tu sais, c'est comme tout travaux universitaire, là, t'as une hypothèse de base, puis tu travailles là-dessus, ben c'est ça, lui, il a dit que dans la vie, il n'y a rien de positif, là, il part de là. Moi, ça me ferait.
Puis parfois, ça permet de créer de beaux débats. Là. Comme tu dis, tu as ceux positifs qui négatifs qui vont se chamailler, mais je trouve que c'est nécessaire qu'on soit capable de débattre. Puis que c'est pas parce que. Faut que les gens comprennent que c'est pas parce qu'on n'a pas la même opinion sur un sujet qu'on se déteste ou qu'on se fâche, tu sais.
Ouais.
Ça fait avancer les débats, puis ça fait avancer la vision du foot qu'on peut avoir d'être capable de débattre. Puis des fois, la ligne est mince, mais faut être capable de plus prendre sur nous, puis d'être capable d'accepter une opinion contraire.
Justement, puisqu'il y a une tonne de questions là-dessus, puis moi, ça ne me tente plus d'en parler, donc je vais te poser la question à toi. j'ai même pas besoin de faire une question, j'ai juste besoin de dire deux noms, deux mots, dans le fond. Maxi Urruti.
Ouais, Maxi Urruti. Ben écoute, moi, j'ai été un de ceux que j'ai trouvé qu'il y avait un super match, une super demi, en fait, en Nouvelle-Angleterre. Finalement, là, je trouvais qu'il était impliqué, qu'il était capable de créer des occasions. Et aujourd'hui, c'était moins ça, quand même. Il a fait son travail habituel là, de course puis de déranger la défense puis de peser sur la défense, ce qui fait bien, ce que probablement Rémi Garde lui demande, donc ça on peut pas tellement lui reprocher. Mais il y a une occasion là, je me souviens pas c'est qui lui fait un centre parfait par terre dans la surface où il envoie le ballon complètement dans les partisans. Puis c'est ça.
Non, au fait j'ai revu la reprise puis il touche pas au ballon, il rate complètement puis c'est là que Schweinsteiger le dégage, ouais.
Schweinsteiger, le défenseur central, on y reviendra.
Ouais.
mais ouais, fait que Maxi Urruti, écoute, j'apprécie vraiment le travail qu'il fait, mais t'as besoin d'autre chose d'un attaquant. Puis ce qui m'énerve vraiment avec Urruti, c'est que j'arrive pas à définir c'est quoi son... Dans ma tête, c'est pas un 10, c'est pas un ailier, c'est pas un attaquant. Donc, j'arrive pas à bien le placer dans ma tête, dans une espèce d'alignement avec l'Impact. Puis il est tellement différent de Jackson Hamel dans sa façon de jouer puis dans ce qu'il amène à l'équipe que ça devient difficile. Tu sais, je pense que de débattre sur un ou l'autre, ça peut pas vraiment se faire parce qu'ils sont tellement différents dans ce qu'ils amènent aux 11 partants. Puis considérant ce que Rémi Garde demande, Maxi Urruti fait le travail. Après, je suis d'accord avec toi que on a besoin de plus d'un attaquant, puis surtout on a besoin d'un gars qui va dès qu'il y a une occasion tirer au but de tous les angles, dangereux. Puis il me semble que c'est ce qu'on disait de lui d'ailleurs. Là. On disait que c'est un gars qui tirait trop souvent de loin, qui allait tenter sa chance un peu pour rien, mais on voit vraiment pas ça à date avec l'Impact. Puis moi j'aimerais voir ça. J'aurais besoin de ça. J'aurais besoin d'un gars qui va chercher cette confiance là. De tirer au but. Après, tu sais, on va pas se mentir, là, ça revient à ce qu'on se dit un peu avec Mankosu. Qu'est-ce qu'on a mieux qu'Urruti actuellement en neuf pour débuter un match? Rien. Donc, on a un peu appris avec lui, puis profitons de ses qualités là, en attendant.
Bon, tu m'as provoqué. Je vais essayer d'en parler d'une dernière fois. God. Mais pour être clair, personnellement, Maxi Urruti, je trouve que c'est un bon joueur. Je sais pas s'il peut être un très bon joueur. Je sais qu'il n'est pas un excellent joueur, mais c'est un bon joueur, OK? Oui, c'est un attaquant qui travaille fort. C'est un attaquant qui contribue au travail collectif. Mais des attaquants qui contribuent au travail collectif, il y en existe des tonnes. C'est pas une qualité « wow ». Ça fait partie de son travail. Si je crois que Maxi Urruti est capable d'aller chercher entre 8 et 12 buts par saison. Quand j'ai fait le pari avec Fred Lepau en disant que Maxi Urruti allait marquer de moins de 10 buts, j'ai hésité longuement à mettre le 10 buts que je disais comme ça, comme statement, comme phrase choc, si on veut. C'était pour vraiment faire un statement, dire, selon moi, Maxi Urruti à Montréal n'est pas celui que vous pensez. Et peut-être celui qui est... Il y a comme une campagne autour de Maxi Urruti, et c'est correct, c'est le travail de l'équipe, c'est le travail du staff, de le présenter comme l'élément de solution pour lui donner un hype que je considérais exagéré. Et moi, en voyant tout ça, en voyant aucun contrepoids, je me suis dit, regardez, là, je vais le faire, le statement. Il n'est pas si hot que ça. Il n'est pas celui que vous pensez qu'il est. Il va faire moins de 10 buts. Bon, aujourd'hui, le pari, il est gagné, là. T'sais? C'est pas, le pari est pas de savoir si je vais gagner, tu sais, la question est pas de savoir si je vais gagner mon pari, c'est si Fred va me payer finalement. Non, non, c'est une blague. Maxi Urruti, moi, je pense que c'est pas l'avant-centre que Montréal avait besoin. Je sais que le discours qu'on fait présentement, c'est Maxi Urruti, c'est l'avant-centre de Rémi Garde. C'est correct, c'est son choix. Lui, il veut avoir, peut-être par défaut, on ne le sait pas, mais le message qui est envoyé, et c'est correct parce qu'il est dans son équipe, il ne peut pas dire autrement, ce serait assez scandaleux de dire, ouais, je l'ai par défaut, on a donné entre 700 et 1 million de dollars un contrat de 3 ans à un joueur qu'on ne sait pas s'il fait le travail. C'est correct de dire partout à gauche, à droite que Maxi Urruti, c'est l'attaquant que l'équipe et Rémi Garde veut. Moi, je pense que c'était une erreur d'aller chercher ce type de joueur. Pas qu'il est mauvais, ce type, ce profil d'attaquant. Parce que Maxi Urruti, tout seul, comme avant-centre, n'est pas capable de faire des buts. Et on le voit. On le voit présentement. On a vu plein de situations différentes. Soit il arrive en retard, soit il est entouré, il manque de solutions. Il est capable d'aligner le jeu, mais il n'est pas capable de conclure le jeu. Dans une équipe où il n'y a pas de jeu collectif, l'avant-centre qu'on a besoin, il est moins beau. Et on a besoin d'un joueur tranchant. T'sais, je vais prendre un cas extrême qui est aussi impopulaire, Nani. Nani, il ne joue pas des beaux matchs, on le sait là. Nani, quand il est arrivé à Montréal, quand il est arrivé à Orlando, wow, mais il ne faut pas que je m'excite, quand il est arrivé en MLS, on disait c'est un joueur fini. Il est blessé tout le temps. Il n'a pas le physique pour la MLS. Ça, c'est un autre cliché. Mauvaise signature. C'est de la vieille MLS. Et blablabla. Aujourd'hui, il y a 5 buts, 4 passes. Comment qu'il les a obtenus? C'est peut-être un peu... Ouais, mais quand il a l'occasion, il est tranchant. Et malheureusement, Urruti ne pourra jamais amener cette dimension-là. C'est pour ça que le Jackson arrive dans la conversation. Parce que Jackson, c'est un profil tellement différent d'Urruti qu'il y a matière à discussion. Jackson, c'est un joueur explosif, physique. Ses courses, c'est vers l'avant. Les appels de balles, c'est vers l'avant. Les solutions individuelles qu'il possède sont différentes de celles d'Urruti. Ensuite, ce que Rémi Garde veut faire, c'est son affaire. C'est lui qui est le boss de cette équipe-là, autant au niveau recrutement que tactique. Mais ça fait pas en sorte que ceux qui sont pas d'accord peuvent pas en parler.
Non, définitivement. Mais tu sais, moi, j'ai juste envie de dire que je pense pas que c'est un débat non plus qui est totalement blanc ou noir. Tu sais, on a l'impression que là, Urruti est justement cet attaquant choisi par Garde, mais on oublie un peu le contexte. Tu sais, l'an dernier, sans revenir sur le cas, il y a Jimmy Briand qui était supposé venir, qui là, clairement, est un choix de Garde. Après, Urruti, il y a clairement le contexte de OK, FC Dallas, clairement, là, faisait un ménage, a rendu Urruti disponible. Oui, il y avait un gros contrat, mais il a pas coûté vraiment cher à obtenir. Il y a le fait que Urruti ait un green card, donc il compte pas comme un international. Avec Garde, sur les réseaux, surtout en France, le truc des places internationales devient un vrai enjeu. Et je pense que tout ça a vraiment pesé dans la balance, puis il a fait OK, Urruti, c'est un gars qu'il faut aller chercher. Le lien avec Nacho. Tu sais, je pense que même là, Rémi Garde savait que c'était pas l'avant-centre parfait qu'il allait chercher. Puis tu sais, Rémi Garde répète tellement souvent, un peu trop souvent à mon goût, à quel point c'est difficile d'attirer des joueurs en MLS. Je pense qu'il a cherché son avant-centre parfait, puis le gars qui va être tranchant. Mais j'ai l'impression qu'il l'a pas trouvé, puis que dans ce contexte-là, il s'est replié sur Urruti. Peut-être que lui s'attendait à un avant-centre plus tranchant, justement. Peut-être que ça le déçoit un peu, puis il maximise un peu ses autres qualités pour fitter dans son collectif. C'est ce que Garde fait de mieux, à mon avis, avec tous les joueurs, là. Il va chercher dans chaque individu des espèces de qualités qui peuvent servir le collectif que lui voit, puis il essaie de les maximiser. Quand les joueurs achètent son idée, ça donne plus souvent qu'autrement des points et des victoires. Et après, ça fait pas de Urruti un avant-centre parfait, puis il sera jamais, là. Fait que ce débat-là va être un peu sans fin tant qu'on n'aura pas de vrai numéro 9 à Montréal.
Moi, je suis d'accord avec toi. Puis pour conclure ce sujet-là, si on se rappelle du bilan de fin de saison, quand on a demandé bon pourquoi Mancuso confirmait qu'il n'était pas de retour, ainsi de suite, et qu'est-ce qu'on avait besoin comme recrutement, une des premières choses qu'il a dit aux journalistes, c'est qu'il y avait besoin d'efficacité devant les buts. Et on le voit là. Et là, c'était à chaud après la saison. Lui, idéalement, si le budget n'était pas un problème, si toutes les règles MLS n'étaient pas un problème, ainsi de suite, son besoin, c'était un marqueur, un buteur. Jimmy Briand, il avait le profil de buteur. Oui, il y avait aussi la dimension collective. Jimmy Briand, c'est quelqu'un qui travaille très, 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 très fort sur un terrain, qui fait ses courses, qui fait ce pressing-là, qui n'est pas seulement en pointe, en attente. Il fait exactement ce que Urruti fait dans un match. Là, Urruti, c'est pas vrai qu'il le fait à chaque fois. Là. Allez regarder le match d'aujourd'hui, si vous voulez. Là, regardez-le une autre fois. Regardez le nombre de fois qu'il a touché au ballon. Il n'y en a pas des tonnes. T'sais, on est resté marqué par un match, par certaines séquences, pour pouvoir accepter les failles d'Urruti. Mais à la base, peut-être que oui, comme tu dis, le plan A de Rémy Garde, c'était d'aller chercher un attaquant. En janvier, c'est toujours compliqué. Il a fallu qu'il se tourne rapidement avec les places internationales. Au Routy, il y avait beaucoup de cases qui étaient cochées, qui faisaient le travail. Puis ça a été un travail aussi à la faire venir. On oublie qu'il a fallu que Nacho parle à Maxi pour qu'il vienne. Ça a été long. C'est quelqu'un qui est hyper présent sur Instagram, a pris pratiquement six semaines, deux mois à parler de Montréal. T'sais, c'était pas si évident que ça. Donc, ça reste à suivre. Bon, on va passer aux questions en espérant que je n'en vois pas trop sur Maxi Urruti. Quoique, il y a d'autres sujets à côté. Alex Tito qui nous pose régulièrement des questions. La sienne est très courte aussi. C'est Azira, 3 points d'interrogation. Azira, c'est tricky un peu. Parce que Azira, c'est probablement une des raisons pourquoi l'Impact de Montréal est si efficace en défensive et si bon défensivement, par sa prudence sur le jeu, par ses choix en cours de jeu. Azira, c'est le bloc derrière. Il ne prend aucun risque. On l'a vu à un moment donné, en deuxième demi, une des premières passes d'Omar Brownie, c'est une incompréhension avec Azira parce qu'il reçoit directement la passe d'Azira et lui a l'impression que comme dans tout autre match, dans toute autre équipe dans le monde, il va combiner avec lui parce qu'il va faire un 1-2 puis lui va faire sa course pour le récupérer le ballon. Et Omar Brownie envoie un ballon complètement perdu. T'sais. Il n'y a personne qui fait la course. Il y a Routy qui ne la fait pas. Il y a lui qui ne la fait pas. Donc, Azira est là peut-être par défaut, mais je suis de moins en moins convaincu que Rémy Garde va vouloir le retirer parce que est-ce qu'on gagne vraiment beaucoup plus en mettant quelqu'un d'autre à sa place au lieu d'Azira? Les candidats, c'est qui? Est-ce que c'est un show-me? C'est déplacer Urruti à sa place? Probablement qu'Urruti pourrait faire les deux, mais c'est pas un poste. Apprendre un poste comme ça en cours de saison, c'est compliqué, surtout quand ça va bien. Mais tant qu'il va être en santé, je pense qu'Azira est pas mal un titulaire indiscutable.
Ouais, puis Azira, à mon avis, c'est un peu comme Raitala, là, c'est le type de joueur que si dans un match, t'as pratiquement pas prononcé son nom, tu l'as pas tellement remarqué, il vient de faire un excellent match. Tu sais, aujourd'hui, t'as cette séquence-là, mais sinon, il a pas énormément été impliqué dans la construction, puis bon, il y en avait pas, là, mais sinon, tu sais, c'est un joueur qui est très, très, très efficace défensivement, qui a un placement pratiquement irréprochable, mais il peut pas se permettre, il a pas les qualités pour se permettre de prendre une journée off, comme on dit. On l'a vu à Philadelphie la semaine passée. C'était peut-être son match le plus difficile depuis qu'il était avec l'Impact. Puis là, tout d'un coup, là, ça paraissait là, qu'il était peut-être pas au même niveau technique que d'autres. Après, Azira, moi, selon moi, quand l'Impact, là, son 11 idéal actuellement, c'est peut-être pas le maillon fait, mais le joueur où tu te dis, ah, si on avait un upgrade, là. Tu sais, tout le monde parle d'un deuxième Saphir qui pourrait être...
Ah, mais c'est pas ça qu'on a besoin.
Exact. Idéalement, là, je sais que vous... Tout le monde en parle un peu récemment, là, mais un DMID, là, ce serait...
Oh, ouais. Mais tu vois, moi, je réfléchissais à ça. Parce que quand on bâtit une tactique, on y va avec nos éléments forts. Il y a Nacho Piatti qui est un attaquant sur un côté inversé de son pied. Donc, lui, forcément, il n'y a pas d'autre place que l'ailier gauche. Ouais. On a Piet, qui est un récupérateur pur, qu'on peut pas placer autrement que devant une défensive. Donc, une fois qu'on a ça, le schéma tactique disponible commence à être limité. T'sais. Donc, Saphir, qui est le fameux box-to-box. Et là, je me suis dit, ça me fait penser à une équipe que j'aimais bien à l'époque. Et c'est celle de Mourinho au FC Porto, et qui après est devenue l'équipe du Portugal, où il y avait, peut-être trop jeune, où il y avait Costinha devant sa défense, il y avait Maniche à gauche, et à droite, il y avait qui? Il y avait Deco. Maniche est tellement le même profil un peu fou de taille d'air. Costinha et Piet, c'est le même rôle. C'est le gars qui est là pour casser le jeu, joue simple, donne le ballon à quelqu'un de créatif, mais il y en a notre problème. On peut pas donner un ballon à quelqu'un de créatif. On n'a pas de déco. T'sais. On n'a pas avant ça de Rui Costa au Portugal. Ce schéma-là de 4-3-3 avec le triangle et un milieu récupérateur, très, très souvent, un des deux devant le milieu récupérateur, c'est le milieu offensif. Là, c'est le fameux 10 qui est de moins en moins disponible, mais qui apporte tout ce danger-là. Là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de combiner c'est des petites séquences où on réussit à faire un but. C'est jamais de très, très longues séquences.
Le problème avec le fait que Azira est vraiment pas ce joueur-là, c'est que des fois, j'ai l'impression que ça met beaucoup de cette pression-là offensive sur Taider.
Ouais, trop.
Puis c'est ça, puis trop. Puis Taider, c'est vraiment exactement ce type de joueur-là que quand il s'en met trop sur les épaules, quand il essaie trop en faire, il devient inefficace. Puis on l'a vu récemment là à Philadelphie, oui, bon, il était blessé. Même aujourd'hui, c'était pas un gros match de Taider. Fait que je pense que Taider serait tellement plus efficace s'il y avait à côté de lui un milieu qui est bien plus dégourdi en construction, puis qui se laisse aller, puis qui a une meilleure technique, puis qui peut combiner avec les joueurs. Parce que le 4-3-3 actuellement, puis c'est ce qu'on voit là, si t'as pas un magicien comme Piatti dans ton trident offensif qui est capable de mener l'attaque, ben là, ta construction, elle bloque un peu au milieu si tu dois passer par Azira, tu sais, qui est pas un joueur construit pour jouer ce type de foot-là. Donc, après, tu sais, t'en as parlé vite, c'est quoi les autres options? Il y en a pas beaucoup, tu sais. On a tous espéré un peu que Brownie soit ce milieu offensif-là. Ben, je suis pas vraiment convaincu, tu sais. Il avait l'air vraiment à son aise, là, sur l'aile droite. Moi, celui que j'aimerais essayer à un moment donné, c'est Mathieu Choignard.
Ouais.
J'aimerais vraiment ça, puis je peux pas croire qu'à un moment donné, Thierry Migard aura pas le choix, là. Même quand il fait tourner son effectif, Azira, si je me trompe pas, a joué tous les matchs avec Piet, à date. Pratiquement. Donc, j'ai de la misère à voir, là, à part Chaumy, qui Rémigard voit dans ce rôle-là.
Mais tu vois, il y a François Boisclair qui nous pose une question très drôle. Est-ce qu'on pourrait faire jouer Camacho à la place d'Azira? J'essaie de lui trouver des minutes. Non, les minutes sur le banc pour l'instant que Camacho sont très, très bonnes. On va le laisser là. De toute façon, il est là d'une façon empruntée. Là.
C'est ça, mais il était sur les 18 là, encore aujourd'hui, Camacho.
Ouais.
Mais ouais, ça va commencer à être lourd là. Je sais pas comment ils vont faire pour se débarrasser de son contrat. Encore au moins 3 ans, si je me trompe pas.
Ouais, mais probablement il doit avoir une bonne réputation encore en Belgique ou quelque part ailleurs. C'est sûr qu'on va trouver une place pour le prêter. Il coûte trop cher. L'été s'en vient. C'est sûr qu'il y a probablement déjà une commande à son agent qu'il peut trouver. Parce que on l'a vu avec, je l'ai dit avec Sofiane, on l'a vu avec Donadel, on l'a vu avec Oduro. Quand un joueur fait pas le 18 puis qu'il est même pas utilisé dans des situations évidentes, ben ça sent que le plan est déjà entamé. C'est juste que nous, on n'est pas au courant.
Non, exact. Puis rendu là, c'est correct. Là, on a assez de défenseurs centraux internationaux. On pourrait même, l'impact pourrait être correct si un des trois défenseurs se blesse pour une courte période.
Oh oui. Puis un vrai quatrième défenseur, c'est un gars de l'académie. Il faut que ça soit ça. Il faut qu'éventuellement... Tout à fait. Exact. Un de nos réguliers, LP, nous demande nos impressions sur Brownie.
Écoute, moi, j'ai bien aimé. C'est drôle, après le match, Rémi Garde a dit qu'il a hésité à le faire entrer à cause de la barrière de la langue. Là. On comprend que Brownie est encore totalement... il comprend pas du tout ce que son entraîneur lui demande. Mais écoute, il y a quelque chose...
J'allais faire une mauvaise blague, mais bon, continue.
Non, écoute, moi, il m'a vraiment agréablement surpris. Là, je l'ai trouvé provocateur. L'entente n'est pas tout à fait là encore avec tout le monde. Mais tu vois que c'est un gars qui est technique, qui se fait confiance, il a une bonne rapidité. Puis, écoute, c'est une des façons que tout le monde nous l'a un peu décrit quand il est arrivé ici. Il est affamé. Le gars, clairement, il veut réussir. Il arrive pas ici en se disant « Bon, j'arrive de l'Amérique du Sud, je m'en vais aux États-Unis.
Oh, » il a l'air tellement excité d'être ici à Montréal, là.
Puis son but, c'était une délivrance pour lui. Puis il avait l'air tellement heureux de marquer devant les partisans. Donc non, moi, je pense que ça augure très, 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 très bien pour lui.
Moi, ce que j'ai aimé c'est un échantillon de 50 minutes, là, il faut faire attention. Mais de ce que j'ai vu puis que j'ai pas vu ailleurs, c'est sa capacité à battre un contre un, son défenseur. Ça, c'est pas besoin de langue, là, pas besoin de coach. Tu le sais le faire ou tu le sais pas. C'est un truc que je vois pas très souvent de Novillo, c'est justement dribbler un adversaire. Brownie, il y a eu 4 dribbles réussis sur 4 dans ce match-là. À Montréal, à part Piatti, il n'y a pas grand monde qui s'est dribblé. De temps en temps, on voit un Choignard qui l'essaye. Les autres, on le voit pas. Là. Au Congo fait pas ça. Il bat les joueurs de vitesse. Novillo, c'est très, très rare qu'il réussisse à dribbler. Baia aussi, on le voit des fois un peu limité techniquement. Lui, il a pas peur. On le voit, il y a une espèce de confiance. Il est arrivé en MLS, c'est probablement aussi la confiance de la CONCACAF. Il n'est pas impressionné. Il est là, il tente des choses. Il était sur la ligne de côté. Il n'a pas fait de passe en avant, en arrière. Là. Il restait l'espace pour un ballon, mais il a pris cet espace-là pour battre. Tu vois, des instincts de marqueur. Là. On le voit rapidement. On n'a pas besoin de 15 matchs. On a beau me dire, attends, Nilton, 10 matchs. Non, on le voit rapidement si le gars a un instinct pour quelque chose ou pas. Est-ce qu'il est capable de le faire de façon régulière? Là, il va falloir voir. Mais oui, à droite, heureusement qu'il y a cet espace-là dans l'effectif, à droite, il va être très, très efficace. Je ne sais pas s'il peut être aussi efficace comme milieu central. On l'a moins vu dans ce genre de situation-là, mais tu vois, Philippe Ordonez nous demande est-ce qu'il va, il mérite un départ après un but. Lui, probablement.
Vers le prochain sujet, mais je veux juste dire, tu parlais de l'instinct du tueur. Tu sais, j'ai revu des séquences là, de son fameux but. Puis, hey, n'importe quel joueur qui commence dans cette ligue-là, qui arrive, qui connaît pas en fait encore ses nouveaux coéquipiers, il est complètement isolé sur la droite, il est presque tout seul. Le jeu, c'est écrit dans le ciel, il faut centrer. Mais lui, il choisit de se faire confiance puis de driver le net, on pourrait dire, pour faire une comparaison de hockey. Mais tu sais, je pense que ça démontre justement ce que tu disais, là, cette espèce d'instinct-là de buteur. Puis, à mon avis, oui, ça mérite assurément un nouveau départ. Puis, on parlait, là, vite, de la profondeur en défense centrale. Je pense que là, avec Brownie, Okwonkwo, Novillo, Choignard, Baia, sans compter même Piatti, t'as quand même sur les ailes, t'as vraiment une belle profondeur là, qui va servir Rémi Garde cette année, c'est sûr.
Oui, puis un beau shout-out à Nick DeSantis, hein, le mal-aimé de ce club-là. C'est un autre de ses... C'est un recrutement de Nick DeSantis, là, on s'entend. Là. Il a dit, le Rémi Garde, il l'a pas vu jouer, il a pas regardé le match contre Toronto. Ça vient pas de son réseau, ça vient du réseau des gens en place de l'Impact de Montréal avec Roberto Brown. Roberto Brown, c'est pas la première fois qu'il tente de faire venir des joueurs du Panama. J'ai au moins un souvenir de deux autres cas. Il n'y avait pas un Janine, Pedro Janine, il y a 2-3 ans. Il y avait un autre défenseur aussi. Tu sais, ça fait quelques fois que... je pense qu'il est rendu agent de joueur, Roberto Brown, qui tente de faire affaire avec l'Impact de Montréal. De temps en temps, il va falloir donner le mérite à Nick DeSantis. Comme ça, un prêt avec un salaire si faible, c'est assez win-win. Là. C'est un match, un but, on ne s'énerve pas. Mais c'est pas cher à payer, là.
Non, pis, écoute, si on pense juste en termes d'ailier offensif, il y a eu plus souvent raison qu'il s'est trompé. DeSantis, là, on peut peut-être dire que, mettons, Venegas aurait été une erreur.
Un mauvais casting, oui.
Mais sinon, Piatti, Silva, Brownie, il y en a sûrement d'autres là, que j'oublie vite. Comme...
Mais je pense qu'il ramasse, il a ramassé beaucoup, beaucoup de haine, si on veut, avec toute la filiale... italienne, tu sais, quand il y a eu les Paponi, les Boldor, tout ça, mais tu sais, quand on regarde Camacho et Boldor, ça, finalement, c'est quoi le plus gros, la plus grosse catastrophe? prochaine question. Ouais, il y avait une tricky de Charles entre Novillo et Urruti et le duo Fanny Silva. Lequel préférez-vous sur votre 11 partant? Ouais, là, je parle là. Lui.
Fanny Silva.
Ouais.
C'est sûr que ben, tu prends Fanny Silva any day of the week, mais l'affaire, c'est que Silva, il nous a rapporté 4 millions, puis Fanny demandait un trop gros salaire pour rester, puis c'est un international. Fait que
c'est fou comment que, aucune équipe ailleurs en MLS a voulu prendre Fanny, ou c'est Fanny qui n'était pas intéressée, ou les demandes salariales de Fanny étaient peut-être. Fanny était vraiment très, très, très cher payé l'année passée. C'était au-dessus d'un million, là.
Ah non, puis tu te souviens-tu, quand les séries ont commencé, les experts MLS avaient fait un genre de mock draft si les équipes pouvaient sélectionner un joueur de chaque équipe. Puis tout le monde prenait Fanny en premier de l'impact. Puis,
oui, Fanny a transformé cette équipe l'année passée.
Je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment quelque chose dans ce dossier-là qui nous a manqué. Là, je pense que Fanny a cru longtemps qu'il pourrait peut-être revenir ou qu'il arriverait peut-être la même chose que l'an dernier. Là. Genre une blessure à Diallo au début pour la saison. Puis là, tout d'un coup, on l'appelle en renfort. C'est pas arrivé. Puis je sais pas, on n'entend pas beaucoup parler de lui. Là. Je sais pas si tu as lu quelque chose à propos de...
Mais la rumeur disait que Fanny et Montréal avaient déjà une entente. T'sais, il en a parlé à une émission en France. Là. Tout était déjà réglé au niveau salaire, tout ça. Mais avant, il fallait régler une situation dans l'effectif, puis ça, on l'a compris, là. Place internationale, un cinquième défenseur, c'est de trop. Ils ont essayé soit d'échanger Cabrera ou soit de trouver une solution pour Camacho. Ils l'ont jamais trouvé. Fait que Fanny est resté sur le bord. Et peut-être que lui, ça le dérange pas d'attendre, puis arrive à cet été, surprise.
Ah, peut-être. Mais tu sais, en même temps, est-ce actuellement là, est-ce que l'Impact a besoin de Fanny?
Non, non.
Raitala fait le travail, Diallo fait vraiment le même travail.
À moins que Raitala soit capable de jouer au milieu, hein, l'homme à tout faire.
C'est le milieu offensif, Raitala.
Ouais. Notre ami Podcast BBN nous demande, ah, ça c'est une question tough, puis je vais encore me mettre dans le trouble. Il aimerait entendre parler du rapport spectacle-résultat.
Ah. Ça revient à notre ami Marc Belletête, ça.
Il y a peut-être plus qu'un compte. Hein? Non, personne ne fait ça. Tu sais, ici à Montréal, peu importe le sport, on préfère toujours le résultat au spectacle. Dans certains pays, une équipe comme Montréal, même si une équipe comme l'Impact de Montréal, dans certains clubs, ça siffle.
Ouais.
À Barcelone, ils sortent les mouchoirs blancs parce qu'ils ont un certain concept, un certain idéal de leur sport. Et c'est correct. T'sais. À Montréal, c'est sûr qu'on n'est pas rendu là. On est sûr. Même le club, c'est pas nécessairement leur objectif parce que ce qu'ils ont besoin pour faire parler d'eux, c'est la victoire. Ouais. Pendant toute la semaine, on va parler du 1-0. On va parler du nouveau joueur qui marque un but. Là-dedans, il y a plein de monde qui vont parler de ce match-là sans l'avoir vu, mais ils ont juste vu ce but-là. Donc, la façon importe peu. Équipe défensive, ça se vend assez bien. Mais si tu fais jouer ce match-là devant des puristes, ils vont dire « c'est faible mm-hmm. ». Moi, en tant que puriste, j'aimerais voir du beau jeu. T'sais, je suis beaucoup plus excité d'aller voir une équipe même si elle ne va pas gagner, mais qui va me proposer quelque chose de wow. T'sais, sortir de là avec une victoire, c'est bien pour le résultat, c'est bon pour le classement, c'est bien pour les ventes, mais il manque quelque chose. Puis l'absence de Nacho Piatti fait beaucoup, beaucoup, beaucoup mal parce que Nacho Piatti apportait par sa seule présence. Je le dis à peu près un podcast sur deux. Quand je vois des gestes de Nacho Piatti, puis je le compare à ce que je vois ailleurs, je suis tellement impressionné. Je vois pas ça beaucoup ailleurs. Tu sais, Nacho Piatti est un magicien. Des fois, il touche même pas au ballon, puis c'est juste son déplacement de corps qui sort le joueur de ses souliers. Ce qu'il fait est remarquable. J'ai pas hâte qu'il parte parce que remplacer ça, ça va être tellement compliqué, puis le jeu va en payer le prix. Là.
Non, Nacho Piatti est la grâce elle-même, on pourrait dire. Mais écoute, moi, je pense que tout est un peu une question de contexte. Tu nous parlais du Barça. Si l'Impact, depuis son entrée à MLS, nous avait habitués à un jeu de possession, puis justement axé sur l'offensive, sur le spectacle, ben là, tout d'un coup, même si l'équipe gagne, mais joue comme elle a joué aujourd'hui, par exemple, ben ce serait hyper décevant. Par contre, c'est pas du tout ce à quoi l'Impact nous a habitués depuis son entrée à MLS, tu sais. Fait que dans ce contexte-là, je pense que c'est difficile de là, tout d'un coup, que les résultats sont là, ben de se dire déçu du spectacle en plus. Je pense que, tu sais, un moment donné, on peut pas avoir le beurre puis l'argent du beurre. Je pense que Rémi Garde fait ce qu'il y a avec l'effectif qu'il a sous la main. Tu sais, je suis pas sûr que si là, l'Impact était actuellement au 10e rang de l'Est, mais qu'il perdait tous ses matchs, c'est 4-3 avec des superbes buts puis des montées à l'emporte-pièce, ben aujourd'hui il y aurait peut-être eu 11 000, 12 000 personnes dans les estrades.
Exact.
C'est ça, fait que c'est ça qui parle à la fin. Si c'est les victoires qui remplissent le stade, ben c'est ça que l'équipe va chercher à accomplir en premier lieu, parce que faut pas c'est ça à la fin là, ça reste une business, puis le but c'est de vendre des billets là, faut jamais oublier ça. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de ça, le consommateur parle beaucoup avec son argent, puis il demande quelque chose à l'équipe. En ce moment, l'équipe lui rend, donc c'est difficile après là, de tout d'un coup se transformer en puriste puis de demander mieux. Je pense que ultimement, Rémi Garde, c'est ça qu'il aimerait là. Il aimerait son équipe conserve la possession, ait 75% de possession à domicile, puis fasse l'essentiel du jeu. Je pense qu'il essaie de construire vers ça, mais il peut pas transformer un effectif en quelque chose qui est pas. Donc moi, écoute, tu disais qu'à Montréal on est beaucoup comme ça. Moi, je suis Montréalais, puis écoute, c'est sûr que c'est le résultat d'abord. J'ai toujours pensé comme ça, puis quand je regarde le sport, mais aussi quand je le pratique. Fait que moi, je te dirais que le résultat me satisfait, mais je pense que ultimement, ces deux choses-là, même si elles nous semblent opposées actuellement, elles se rejoignent. Je pense qu'une équipe qui est mise sur la possession, sur le beau jeu, éventuellement va avoir du succès. Puis je pense qu'une équipe qui ne fait qu'essayer de chercher des 1-0 va finir par perdre. Donc, je pense que la réponse est dans une espèce d'équilibre entre les deux. Puis c'est pas vrai là, que chaque fois qu'on va au Stade Saputo, c'est des matchs de 1-0 comme aujourd'hui ou comme Columbus. On en a eu des beaux spectacles. On peut penser à la fameuse défaite de 5-3 contre le LAFC l'an passé, au tour du chapeau de Drogba contre Chicago, justement.
Ah, la belle époque!
Il y en a eu des beaux moments, puis il va en avoir d'autres. C'est pas à chaque fois qu'un match est pas super excitant. Faut tout remettre en question puis se dire que l'Impact veut juste le résultat. Je pense que ça dépend de l'équipe, ça dépend de la journée, ça dépend de l'adversaire. C'est ça qu'on a eu aujourd'hui, c'est pas nécessairement ça qu'on aura la semaine prochaine.
Bon, on va aller au sujet chaud là. On a plusieurs questions en ce sens là. Je vais essayer de prendre un échantillon un peu pour parler de ce sujet de fin de match. Matteo Marquez nous demande, est-ce que la crise d'Anthony Jackson-Hamel pourrait le laisser sur le banc dans les prochains matchs, voire l'exclure du 18? Et Kevin Duska, que je salue, et qui est ouvertement assez anti-Jax. Pourquoi tolère-t-on les crises de Jackson? Toi, tes billets de saison sont du côté des ultras, c'est ça?
Ouais.
Donc, c'est ça, une fois que j'avais vu la réaction à chaud de Jackson, où j'étais loin un peu, là, mais confirmé par Dave Lévesque, où il semblait déçu, slash frustré, énervé. Du fait qu'il ne rentre pas après le but, parce qu'il était prévu, le papier avait été donné, tout ça. Et toi, ce que tu as vu, c'est en fin de match où là, tout le monde est gentil, tout le monde est content. Il était devant les ultras en train de fêter avec ses joueurs. Il était leader comme d'habitude, c'est ça?
Exactement. Puis il semblait aussi enjoué. Tu sais, moi, j'avais pas vu. C'est pour ça que nos visions se complètent un peu. J'avais pas vu la crise du tout à ce moment-là. Fait que j'en avais aucune idée. Puis j'avais pas encore regardé sur Twitter. Puis écoute, c'était le Jackson qu'on connaît, le souriant, qui prend tous ses joueurs dans ses bras, puis qui chante, puis qui lead la foule avec ses fameux zoom zoom. Donc là, moi, de dire qu'il fait une crise. Écoute, moi, un attaquant qui a marqué 2 buts en milieu de semaine, qui pense qu'il va entrer dans le match, qui finalement se fait dire qu'il rentrera pas, puis qui est frustré.
C'est normal.
C'est ça la normalité. Là. Moi, je m'attends à ça d'un Québécois qui joue pour l'Impact, qui veut marquer des buts. C'est ça qu'on veut. On veut que le club soit affamé. Tu sais.
C'est drôle que tu parles de fait d'un Québécois. Moi, si j'étais ami de Jackson, ça fait très longtemps que je lui aurais dit, regarde Piette. Piette, il s'est fait aimer rapidement, pas juste par ce qu'il fait sur le terrain, mais par sa proximité. avec les partisans. T'sais, il communique avec, il se rend disponible. Sur Twitter, il répond aux gens, tout ça. Jackson, il a un profil, puis c'est une personnalité. Là, il est beaucoup plus low profile, puis il est à ses affaires. On se souviendra que Bernie, il l'a fait, ce genre de crise-là. T'sais. Il ne s'est pas pointé à un entraînement parce qu'il ne jouait pas. Là. On n'y a pas tombé dessus. Là. T'sais, l'épouse de Patrice Bernier a fait une sortie là, sur Facebook, tout ça, là, anti-clopasse. Là. Et on était tous derrière Bernier et on comprenait la situation, que Bernier pouvait être énervé de ne pas jouer, que peut-être il y avait une place à prendre, ainsi de suite. Jackson, merde! Il a joué 20 minutes, il a marqué 2 buts. OK? Il veut être titulaire. Il n'est pas obligé d'être titulaire à Montréal. Il peut être titulaire ailleurs. Tu sais, Rémi Garde a été sévère envers lui au bilan de fin de saison. Tu sais, ça a été rough ce qu'il lui a dit. Il a avalé sa pilule. Il y avait des propositions ailleurs en l'avant, dans l'entre-saison. Il n'a pas été libéré comme il aurait voulu l'être. Il a décidé de baisser la tête puis de travailler dans le sens de Rémi Garde. Il lui a donné, tu sais, il a tout donné ce que Rémi Garde lui demandait. Rémi Garde dit souvent, ben, les minutes, ça se gagne à l'entraînement ou les fois que je rentre. Ben, à l'entraînement, il n'y a rien à lui reprocher de lui, tu sais, ça vient pas de moi, ça vient de Rémi Garde. Il aime son attitude. Il fait rentrer en cours de match. Il le produit. Il se retrouve dans une situation où Urruti va aligner un troisième match en 10 jours, il est déjà à la base un peu énervé parce qu'il se dit « Merde, si je joue pas aujourd'hui comme titulaire, quand est-ce que je vais jouer? » Et là, il se retrouve dans une situation où il peut peut-être débloquer le match et se retrouver encore une fois comme le héros. Hein? Et bon, c'est le but, il peut pas rentrer. Tu sais, Kevin, c'est normal qu'il soit frustré un peu. Ce qui se... Tu sais, oui, il y a peut-être des problèmes de anger management, là, mais tu sais, dans les cours de anger management, quand t'es fâché, on te demande de t'isoler. C'est ça qu'il a fait, là, tu sais. Qu'il pitche un chandail, là, c'est come on, au moins, il a fait quelque chose, là, tu sais. Show Me aussi, il a pitché son chandail parce qu'il était déçu de son jeu, là. Tu sais, oui, Robert Duverne lui a parlé, Diop, il a parlé, mais c'est leur rôle, tu sais. À la fin, il se dit, bon, too bad, là, gars, on a gagné, je me suis énervé, je passe à d'autres choses. Moi, j'ai pas de misère avec ça. Moi, je trouve les gens très, très sévères envers Jackson. D'où ma théorie de, les gens sont peut-être sévères envers lui parce que Jackson, il n'y a pas la même image publique que d'autres Québécois dans l'équipe. T'sais.
Définitivement. C'est vrai qu'il y a un peu ce style un peu badass qu'on pourrait dire, là, qui vient, tu sais, Patrice Bernier, Samuel Piette, on les présente comme Monsieur,
Impact.
C'est ça, l'espèce d'exemple à suivre qu'on veut être. Jackson, c'est un peu différent, tu sais. Puis sa position amène ça aussi, là, l'espèce d'attaquant qui rentre, qui joue physique, puis qui essaie de marquer. Je le comprends, là, puis...
Ben, c'est frustrant, le gars, il marque 2 buts. OK? Il marque 2 buts, puis Rémi Garde, dans sa présentation et dans ses compliments, il finit malgré tout par lui dire, ben, il a complété le travail de fatigue de Urruti. Come on, man.
Je veux dire, Dunzi, là, il joue pratiquement jamais. Il joue 20 minutes, il marque 2 buts. Donne-lui.
Troisième allusion au hockey, on est loin de Jacques Demers. Là.
Non, mais c'est vrai. Ça, par exemple, moi, je comprends que dans... Ça me semble avoir été clair là, pour Jackson, pour Rémi Garde, pour Urruti, que Rémi Garde a fait de Urruti son attaquant numéro 1, puis Jackson son remplaçant. Puis ça me semble, jusqu'à preuve du contraire, là, être assez coulé dans le béton. Si le fait de marquer 2 buts change rien à ça...
C'est fini.
C'est ça, exact. Tu sais, à moins qu'il arrive quelque chose ou que Urruti, on est rendu au 30e match puis il n'y a toujours pas un but.
Mais le tiers est fait, là.
Mais, tu sais, je veux dire, d'être le deuxième attaquant dans une équipe de MLS, c'est bon, là. Je veux dire, c'est quelque chose qui peut... C'est sûr que un joueur va toujours vouloir être constamment sur le 11.
Exact.
Mais c'est un rôle qui peut très bien aller à Jackson, à mon avis. Là. Puis il va avoir les départs en championnat canadien, je suis presque sûr. Je pense qu'il y a, tous les éléments sont là pour que Jackson ait une très belle saison. Là. Puis tant mieux s'il est capable d'empiler les statistiques. Moi, je pense qu'on essaie parfois là, de faire un grand cas avec peu de choses. Je pense que c'est un peu le cas, ça. Qu'un attaquant soit frustré de ne pas jouer... Tant qu'à moi, c'est une nécessité. Donc, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus.
Ah tiens, je vais amener une question. Je ne sais pas à combien de temps qu'on est rendu. J'ai perdu le fil un peu. 1h10, c'est pas vrai. Oh, wow. J'aimerais ça, je vais me garder un peu de temps pour parler, je vais faire un auto-promo, là, du, du sondage que j'ai envoyé concernant Samuel Piette. Oh, oui. Je sais pas si tu l'avais pas, tu l'as vu passer. On a eu quand même beaucoup. Beaucoup. Tu sais, moi, ça fait une semaine que je réfléchis à Piette. Parce que son contrat devrait, oui, son contrat se termine cette saison, donc on va parler renouvellement de contrat bientôt. Puis pour essayer, tu sais, oui, là, des comparables MLS intéressants, tout ça, mais il est assez jeune, donc je me disais, tu sais, Samuel Piette en Europe. Puis pour faire simple, j'ai utilisé uniquement la France. Ouais. Pourrait occuper quel genre? De place titulaire. Donc, j'avais demandé aux gens de faire l'exercice. Piette en France serait titulaire dans quel club? Et j'avais 4 choix de réponse. J'avais le mi-tableau. Bon, on oublie le top 6, voire top 10 de Ligue 1. Donc, mi-tableau Ligue 1, bas de tableau Ligue 1, quelque part en Ligue 2. Et finalement, le dernier choix, je me dis peut-être que c'est moi qui est en plein délire, et j'ai mis pas le niveau pour aucune de ces deux ligues-là. Et les réponses m'ont vraiment étonné. Presque 65% voyaient Piette jouer titulaire quelque part en Ligue 1, 40% en bas de tableau et quand même 20% en mi-tableau. Là. Mi-tableau Ligue 1, c'est quoi? C'est Stade Rennais dans les bonnes années. Bon, pas Guingamp, hein? Guingamp est tombé, je sais pas, mais tu sais, ça dépend, là, les Nantes, les Bordeaux, selon les années, les Nice, des trucs comme ça, là. Donc, il y avait quand même 20% des gens qui voyaient un Samuel Piette là. Sinon, l'autre tiers voyait quelque part en Ligue 2. Donc, je me suis renseigné aussi après ça pour savoir quel genre de salaire, tu sais, quel genre de salaire un titulaire de Ligue 2 va aller chercher. Donc, tu sais, souvent, j'entendais des montants comme, je sais pas, 50 000 par semaine, ce qui correspond par semaine, non, bref, ouais, semaine, non, par mois, ouais, mais c'est par mois, je pense, par semaine, c'est, bref, ça tournait autour, selon les personnes que je parlais, ça allait de 300 à 600 000 euros. C'est quand?
Ça, c'est quoi, bas de tableau Ligue 1?
Non, en Ligue 2, tu sais, ça dépend, là, tu sais, c'est quand même un bon, tu sais, un demi-million d'euros, c'est un beau salaire, et là, si je regarde en MLS, il n'y a pas beaucoup de milieux défensifs qui obtiennent ce genre de salaire-là. Et à Montréal, il y a trop souvent la prime maison qui est appliquée ou avec les joueurs de l'Impact de Montréal. Montréal va-t-il se retrouver avec peut-être un problème de signature de contrat de Samuel Piette?
Écoute, c'est une excellente question. En même temps, t'en as parlé en tout début d'émission. Samuel Piette est juste partout en ce moment. Il a fait bonsoir, bonsoir, tout le monde en parle, mais on le voit aussi, là, il est dans les émissions du matin, il est à la radio. Ça, c'est quelque chose qui est...
Et c'est très brillant de sa part.
Ouais, puis c'est exactement, ça met une pression sur l'Impact. Parce qu'imagine, toi, pour l'espèce de fan néophyte là, qui suit pas tellement l'Impact, mais qui voit Samuel Piette à gauche, à droite, qui entend cet été, l'Impact veut pas offrir le salaire voulu à Samuel Piette. Ouh, ça ferait très, très, très mal au niveau de l'opinion publique. Donc, t'as raison que ça, c'est très bon. Écoute, moi, j'avais dans ton sondage, que je trouvais pas intéressant, j'avais écrit les deux un peu, tu sais...
Ouais, moi, si j'avais à voter, j'aurais probablement mis ça aussi.
Je vais être honnête, j'écoute pas chaque dimanche là, les matchs de Ligue 2, donc après, voir où il serait exactement, c'est un peu...
Mais on en a un, Ligue 2, dans notre équipe, qui faisait partie... Oui, exact, puis il a fait partie de l'équipe d'étoiles de Ligue 2, donc tiens, on peut comparer, là.
C'est vrai, bon point, on voit l'impact que Diallo arrive à avoir en MLS, qui est un peu la même chose que Piette, en fait, là.
Et probablement que moi, je trouve que Piette, en MLS, dans le schéma de l'Impact de Montréal, est encore plus important que Diallo. Mm-hmm, c'est vrai. Il y a l'élément canadien, n'occupe pas une place internationale. Il y a 24 ans, c'est une des figures de la sélection canadienne. Mm-hmm. Il y a plusieurs éléments qui est en sa faveur. Ouais. Samuel Piette, s'il voulait, il pourrait tellement aller chercher d'argent à l'Impact de Montréal parce que l'Impact peut pas se permettre de le perdre. Samuel Piette, c'est pas ce genre-là. De son côté, il y a beaucoup d'avantages de rester dans un marché québécois. Mm-hmm. S'il s'en va ailleurs, il va être un inconnu et ça va être tough pour le moral. C'est quoi ses autres options? Toronto, c'est sûr qu'il serait intéressé à Piette. Ouais. Mais est-ce qu'il veut vivre avec ce tag-là de Ultimate Villain, traître? Mais non. Exactement. Tu sais, il va falloir vraiment qu'il y ait une offre qu'il ne peut pas refuser et que tout l'odieux de cette signature de contrat-là soit sur Kevin Gilmore. J'ai hâte de voir les prochaines semaines de Samuel Piette. Ben, les prochaines, tu sais, il va falloir qu'il signe rapidement. On ne sait jamais, là, quelqu'un peut faire un coup de téléphone à Rémy Garde pour lui demander son avis. Parce que dans une structure X, là, dans un schéma où une équipe a juste besoin d'un gars pour détruire puis de jouer simple autour de lui, Samuel peut être efficace. Peut-être pas en Ligue 1, peut-être pas en France. Peut-être que c'est un profil plus... Justement, Kevin, de ce qu'on en parlait, c'est peut-être plus un profil britannique, allemand. Mais il y a d'autres options. Là, tu sais, je sais pas, moi, une grosse équipe en Norvège ou en Suède l'appelle puis lui propose le gros contrat. Pourquoi il dirait non? Tu sais?
C'est ça. Mais écoute, en plus, l'Impact nous a souvent habitués à attendre à la fin de l'année avant de signer ces contrats-là, mais il y aura avantage à comme se débarrasser de ça le plus tôt possible. Surtout que l'Impact va perdre là, Piette pendant plus ou moins un mois avec la Gold Cup. Puis imagine-toi que l'Impact a de la misère défensivement, accorde beaucoup de buts. Puis
ça va arriver.
C'est Piette. Ce qui risque fortement d'arriver parce que qui le remplace actuellement?
Ça risque d'être à zéro, oui.
Exact. Ça risque de faire mal, puis ça va juste faire monter un peu sa valeur. Il y avait, je pense que c'est Patrice Bernier qui t'a répondu, puis qui t'a offert la comparaison avec Will Trapp, qui est aussi.
Oui, c'était Nicolas Martineau. Ouais.
Nicolas Martineau, c'est ça, qui est aussi. Will Trapp, qui est aussi là, un gars, un homegrown à Columbus, qui joue pour l'équipe nationale, puis qui fait quelque chose comme 525 000. Je pense même pas que Piette va être capable de se rendre à ça, justement parce que tu nous parlais là, de l'espèce de discount maison, qui est un peu inexplicable, mais qui est bien réel. J'ai l'impression que l'Impact va peut-être lui offrir quelque chose comme 350, puis il risque d'accepter, là.
C'est triste parce qu'il mérite tellement mieux. Puis je sais plus qui m'a répondu. Puis il avait raison. Il y avait eu une discussion à un moment donné, une fois, quand Don Garber était venu à Montréal, puis il parlait la possibilité d'obtenir peut-être un budget supplémentaire pour garder les stars ou faire venir des stars canadiennes en MLS. On est rendu là. Ouais. Piette fait partie d'une des figures de la sélection canadienne dans sa démarche dans la Gold Cup, dans sa. La Coupe du Monde s'en vient, le Canada risque d'être là. Il risque d'être là avec le Canada, je veux dire. Ça serait bon pour la MLS que ces figures-là restent dans la MLS, puis que là, la MLS devrait maintenant passer de la parole aux actes, puis sortir le budget pour payer ces stars-là. Il est resté là. Ça serait peut-être une belle compensation pour les green cards.
Elle est vraiment pris là-dedans actuellement à la MLS, hein, une espèce de dichotomie entre amenez-vous payer 200 millions, on veut plein de franchises autant qu'on veut, mais c'est pas capable de bien payer ses joueurs, des injustices entre les équipes, prend des vols commerciaux, il y a vraiment quelque chose à régler dans les prochaines années là pour
arrêter. Ouais, puis la convention collective se termine cette saison, donc ça peut aussi brasser là.
Puis moi, je vois de plus en plus, on dirait, l'association des joueurs qui s'implique. Là, on les a vus après l'histoire de l'Impact là, avec le vol en Nouvelle-Angleterre. Fait que je pense qu'il va y avoir des petites pressions. Là. Ça va être intéressant de suivre de plus proche parce que faut que la MLS commence là, à arrêter de regarder vers le haut puis se concentre sur elle-même un peu là pour être plus solide parce que des fois, c'est pas totalement logique la manière dont ils font les choses.
As-tu le temps pour deux petites dernières questions?
Certainement.
François Aubin nous demande, mais malheureusement, là, ça c'était dirigé probablement à Sofiane, donc tant pis pour lui. Que se passe-t-il avec Saphir? Il semble découragé rapidement. Saphir a l'air souvent découragé rapidement. Hein?
Ça, c'est un comme notre ami Blérim, là. Il se fâche.
C'est vrai.
Puis c'est comme Sofiane, en fait. Là. Il s'excite, là, tout d'un coup, il se fâche, il fait des gifs, il fait des.
Puis ça, c'est tout ce qui est public. Imaginez en privé. Oh là là là.
Mais non, moi, je pense que quand Saphir se fâche, c'est qu'il est dans son match puis qu'il veut faire mieux.
Ça fait partie de sa personnalité. Il faut accepter les personnalités de tout le monde. Là. Tant qu'elle dérange pas trop l'équipe. Je pense pas que ça semble pas déranger ses coéquipiers. Des fois, ça a l'air à déranger un peu Rémy Garde qui est sur son dos, qui écrit beaucoup pendant le match. Mais je pense que ça vient avec le fait que Rémy Garde le considère comme c'est pas juste un titulaire, mais un des leaders techniques de ce club-là, puis il a besoin de Saphir, et probablement qu'il s'est rendu compte qu'avec Saphir, il peut toujours lui en demander plus. C'est pas le genre de gars qui va se décourager. Ça va lui servir comme motivation pendant le match. Hein.
Ah, puis on est même comme ça. Je sais que moi, en tant quand je regarde les matchs puis je les analyse, les matchs de l'Impact, je m'attends à plus de Saphir que je m'attends d'Azira ou que je m'attends de d'autres joueurs. Tu sais, on a de grosses attentes envers lui, puis il le sait, il s'en met beaucoup sur les épaules. Je pense que c'est juste pour ça qu'il se fâche. Puis écoute, il est pas dans sa meilleure séquence actuellement, mais je suis pas inquiet pour lui. Là, il va revenir à son niveau. Là. Ce sera pas...
ouais, c'est un beau 700 000 placé en lui, en tout cas. On n'est pas perdant là-dedans. Et une petite dernière de GF nous demande... ouais, ça, c'est un cas que... un sujet dont je reviens de temps en temps. Parle de la fragilité de nos jeunes. Baya, les deux Chouanières, Jackson. Hein? Est-ce qu'on peut prêter Duverne à l'académie?
Pourquoi pas? J'ai pas bien vu la blessure de Baya. C'est vrai qu'il...
ouais, c'est la cuisse qui a lâché lors d'un retour défensif. Là. Je sais pas si c'est un lien avec le terrain. C'est aussi le terrain. Hein? Je sais pas, c'est Éric Chenois qui a posté une photo. Il y avait un hélicoptère qui est passé au-dessus du stade, qui a pris une photo. Et on voit Montréal, on voit le stade, puis le seul bout de pas vert, c'est le stade.
On dirait que ça nous allait quand on disait « Ah, c'est l'hiver ici encore », mais là, quand tu vois tout
ouais.
autour, c'est vert. C'est difficile à justifier. Ouais, j'avoue qu'il y a deux semaines, OK, mais là, il faudrait peut-être...
Non, je connais pas ça, mais il y a probablement... on a essayé quelque chose qui n'a pas fonctionné.
Ouais, définitivement, parce que... Puis écoute, ça commence à être... Les vidéos que la MLS poste, souvent des buts, des...
Ouais, c'est pas beau, hein?
Que ça aussi, les commentaires sonnés. Que ça. Les gens qui se demandent c'est quel genre de terrain, si on dit que c'est un terrain d'une école secondaire. En même temps, de l'autre côté, je sais pas si ça a affecté le spectacle, mais ça semblait pas tellement...
Mais moi, je trouvais que ça le nuit un peu au contrôle de Okwongo. Souvent, là, sur son côté, il poussait, là, ça... Mais bon, c'est peut-être pas le cas, là, mais ça pouvait... Ben, quoique, tu vois, je l'ai réécouté le match avant le podcast, puis c'est-tu à la mi-temps? Oh? Ouais, je pense que c'est à la mi-temps. Rémi Garde parle du terrain, comme quoi ça devient un peu compliqué. Ça fait partie un des éléments qui dérange au jeu, c'était le terrain. Quand c'est Rémi Garde qui commence à parler un peu du terrain, c'est dangereux. Sinon, les jeunes, c'est vrai que nos jeunes de l'académie... On n'a pas les bœufs de l'Ouest là qui sortent de l'académie, c'est des c'est des petits profils. Tu sais, quand Jackson, c'est ton plus gros costaud qui est sorti de l'académie, okay. Non, c'est pas vrai. Il était pas mal, Max Crépeau.
Ouais, Max
Crépeau. Ouais. Mais oui, tu sais, mais ça faisait quelques matchs consécutifs aussi pour Bayern. Tu sais, j'ai été étonné qu'on le titularise 3-4 jours plus tard. Mais bon, c'était peut-être faute d'options. Parce que, ben, il l'a dit, là, Rémi Garde a dit qu'il était un peu craintif de faire jouer Brownie parce qu'il n'était pas nécessairement apte à discuter avec les joueurs autour de lui. Ça veut dire que Sagna va falloir qu'il se mette à apprendre l'espagnol puis tout ça.
Pas le choix. Mais en même temps, c'est vrai, il a joué tellement partout qu'il doit avoir des bases en espagnol. Mais j'ai l'impression d'ailleurs que Baya, je pense que Rémi Garde l'aime beaucoup. Hein.
Ouais, c'est moi.
Voir, ils veulent le faire jouer, puis mais c'est vrai qu'il va falloir faire attention. Chouanière, on dirait que chaque fois qu'il embarque sur le terrain, il ressort avec une petite blessure. Ça, c'est, on sait que ça a fait beaucoup de mal à la carrière de son frère avec l'Impact. Donc, faudrait quand même faire attention là, puis espérer que ça devienne pas plus grave. Surtout qu'on va avoir besoin d'eux avec tous ceux qui vont partir à la Gold Cup ou à la Coupe d'Afrique, puis.
Puis on va avoir besoin d'eux pour battre les équipes de la CPL bientôt.
Ouais.
Non, je travaillais samedi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de choses passer. Tout le monde est positif et joyeux, c'est bien, j'aime ça. Là, ce...
ouais, ben, écoute,
un début de ligue. Ben, moi, je suis impressionné par l'élan, comme ligue qui commence comme ça. Il y a l'appui des fans derrière qui sont probablement prêts à accepter n'importe quoi parce que c'est un début de ligue et tant mieux. J'aime le pari que la CBC a pris avec cette ligue-là. Moi, je veux la voir réussir. Partout ailleurs, il y a des ligues comme ça qui vont servir de tremplin. Jimmy Vardy, il jouait dans une beer league en 8e division. Puis, il en faut des options comme ça pour tous ceux qui sortent de l'académie, voir le soccer se développer un peu partout. J'ai hâte de voir le projet d'Alec Bunbury. Puis si j'étais riche, je me battrais avec lui.
Il y en a qui parlaient hier sur Twitter de faire une espèce de... Tu sais, un peu comme Dortmund, là, de chacun acheter des parts.
Les socios, là, ouais.
Ça serait incroyable. Mais non, écoute, moi aussi, je pense que c'est un beau projet. J'avais comme aucune attente en regardant ça. Puis j'ai regardé le match au complet. C'était pas désagréable du tout à regarder. C'est pas la MLS, puis c'est pas
mais c'est
la Premier League du soccer du Québec, mettons. Tu sais, il y a vraiment... Mm. il y a vraiment quand même un bon niveau. Il y a des bons petits joueurs, là, des petits noms qu'on découvre.
Mais c'est des joueurs formés, c'est la différence. Je veux dire, c'est peut-être, on oublie rapidement d'où on vient. T'sais. L'Impact de Montréal, il y a 10 ans, c'était peut-être ça. Là. C'était peut-être le même niveau. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu le match encore. Mais c'était des joueurs. Quand on pense à l'Impact de Montréal, il y a 10-15 ans, des joueurs semi-pro qui s'entraînaient comme ils pouvaient, qui ont eu une formation comme ils ont pu. Maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui sortent de l'académie, là, qui est un peu partout en Amérique du Nord. Je pense que ça, s'ils sont prudents au niveau financier, puis qu'ils progressent tranquillement comme la MLS a fait à ses débuts, je vois pas pourquoi ils pourraient pas réussir.
Non plus. Puis après, en bout de ligne, s'ils réussissent, que le niveau nous satisfasse ou pas, c'est juste une excellente nouvelle pour le foot canadien. On en veut toujours plus. Fait que,
ouais. Puis une équipe avec un logo de Tim Hortons dessus, qu'est-ce que tu veux de mieux?
Tim Hortons partout. Let's go.
Ah, il manque juste un jersey Desjardins, puis on est correct. Bon, mais ça va compléter notre CCPP sans couscous. Puis, ouais. Ben non, mais c'est un grand, grand, grand plaisir pour moi de t'accueillir au CCPP, puis je te remercie fortement. Et peut-être qu'éventuellement, on pourrait faire ça à 3, à 4, on ne sait plus. Hein? On pourrait agrandir la famille sans problème. Désolé si on n'a pas réussi à répondre à toutes vos questions, même celles qui vont probablement arriver après l'enregistrement du podcast. Sinon, ben souvent, je réponds individuellement aux gens. Ah oui, il y a une des questions de Émile Archambault que je ne répondrai pas, mais que je veux simplement dire que vous devriez vraiment suivre Émile. Émile, il y a une formation en FIFA au niveau arbitre. Souvent, on parle beaucoup, beaucoup de tactique. On dit souvent plusieurs niaiseries au niveau règlement. Moi, le premier. Et moi, mon premier réflexe maintenant, c'est demander à Émile qu'est-ce que tu penses de telle action. Donc, vous irez voir, j'ai une discussion avec lui concernant le coup de coude de Sagna à McCarthy. Allez suivre Emile, il est très, très intéressant.
Justement, hier, il parlait de la CPL. Puis la CPL utilise les règles de la FIFA qui vont être en vigueur pour l'année prochaine.
Exact.
Dont la règle que le gardien, sur un goal kick, peut jouer avec ses défenseurs directement dans le rectangle.
Voilà, ça répond à une des questions que j'avais avec mon partenaire de billet de saison, Thierry, où il disait « C'est donc bizarre, SPL, il accepte les relances dans la surface. » Puis là, je disais « Ah oui, j'ai vu passer quelque chose comme quoi il y avait une nouvelle réglementation FIFA. » Voilà. Il y a des 1000 encore. Ah ouais, Emile, si tu te retrouves pas avec 1000 followers d'ici la fin de la semaine, ben c'est clairement un indice que nous sommes pas du tout influenceurs. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Sinon, lundi, vous pouvez écouter la chronique de Julien avec Jean Corriveau. Et deux jours plus tard, la mienne, toujours avec Jean. Donc, bonne semaine.
Bonne semaine. Merci tout le monde.
Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur.